franceinter.fr. C'est du classique, mais c'est pas grave. Sylvie Chapelle.
Un autre site est mis en avant dans ce salon. Il s'intitule jejouedupiano.com et il est porté par Marie-Joseph Jude qui est avec nous. On vous connaît bien en soliste et en musique de chambre, notamment en duo avec Jean-François Esser qui est venu dans cette émission en début d'année. Vos enregistrements présentent des œuvres de Brahms, Mendelssohn, Schumann, Jolivet ou encore Henri Dutilleux, tous salués par le monde musical. Sous quelle forme, Marie-Joseph Jude, allez-vous intervenir dans le cadre de Musicora ?
Je suis invitée à faire ce qu'on appelle une masterclass. Donc c'est assez classique pour nous. Il s'agit simplement de donner un cours en public. Alors je rectifie simplement que le site, c'est Mathieu Papadimondis vraiment qui le porte complètement. Et que moi j'interviens. C'est-à-dire que Mathieu m'a demandé d'enregistrer un certain nombre de cours. Mais il y a également Bruno Rigouteau, Jacques Rouvier, François Chaplin, Jean-Marc Louisada. Enfin, on est quand même pas mal. C'est vrai qu'il se trouve que moi, j'en ai fait beaucoup. Donc, j'occupe beaucoup d'espace sur le site. Mais en réalité, c'est un site qui va devenir beaucoup plus complet chaque année, je pense. Mathieu va compléter les cours par le répertoire pianistique, tout simplement. Et donc, on sera de plus en plus d'intervenants.
Et il est déjà complet. Hein. Un site qui propose des cours de piano en ligne pour tous les niveaux, donc oui. J'allais voir, faut dire que c'est quand même assez bien fait. Mais je me disais, les cours dans les écoles et les conservatoires ne suffisent pas. Pourquoi cette nécessité ?
Ça ne s'adresse pas réellement aux enfants. Hein. Il est évident qu'un enfant apprendra évidemment beaucoup plus facilement s'il est motivé par un relais affectif. L'enfant, il apprend pour faire plaisir. Il n'apprend pas encore pour sa propre motivation personnelle. Il n'a pas encore compris que c'était quelque chose qui allait lui apporter beaucoup de bonheur, la musique. Donc c'est vrai que ce n'est pas du tout le vecteur de l'ordinateur, le fait que ça soit quand même un peu dépersonnalisé ne s'adresse pas à l'enfant. Mais c'est vrai que le contenu même du site, c'est un peu quand vous analysez une œuvre littéraire, c'est-à-dire que vous allez approfondir une œuvre. Et mon regard à moi, c'est de donner les pistes et les tuyaux pour travailler l'œuvre, des méthodes de travail, sachant que ce sont des œuvres qu'on connaît bien en tant qu'interprète et que dans certaines œuvres, on sait quelles sont les difficultés. On connaît déjà les écueils dans lesquels on va tomber. On a un petit peu l'habitude de ça. Donc c'est vrai qu'on va tout de suite aller à l'essentiel. Et l'avantage par rapport aux écoles justement de musique et peut-être aux cours particuliers qu'ont aussi les adultes, c'est simplement qu'entre deux cours, vous n'avez pas toujours la mémoire de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous a montré. Et là, vous avez tout simplement la possibilité de vous repasser le cours et de re-regarder.
Vincent Rivel, vous participez aussi à la pédagogie, à la vie musicale pédagogique avec Roland. Vous participez donc à une méthode de piano pour les 5-9 ans. Vous occupez des tout petits.
En fait, j'ai deux casquettes, j'ai même plusieurs casquettes. Alors, je viens surtout là, ici en tant que responsable du département éducation chez Roland, qu'on avons créé au mois de janvier. Et j'ai également, parallèlement à cette activité, une activité de dessinateur, puisque je dessine les souris vertes dans le magazine Music Keys, qui est un magazine formidable pour les enfants, pour la musique. Et je viens de co-signer une méthode pour les enfants, effectivement, qui s'appelle « Pour les 5-8 ans, tout simplement ». Avec mes souris vertes, voilà.
Et vous participerez aussi à Kid Expo, qui se déroulera au mois d'octobre à la Porte de Versailles, pour permettre aux enfants de prendre leur première leçon de piano, non pas par Internet, mais en live. Mais pour le moment, puisqu'on parle de musique live, Marie-Joseph Jude, vous allez nous interpréter l'un des préludes de Debussy. On vous écoute en studio dans Bruyères.
Thank you.
Merci Marie-Joseph Gide pour ce prélude de Debussy en direct depuis le studio 118, un avant-goût de votre cours d'interprétation à Musicora. Ce sera samedi prochain, 12 mai à 17h, dans le salon d'honneur du Palais Brongniart à Paris. Sur le site que vous portez, jejoueducpiano.com, on peut écouter et télécharger des œuvres. Qui dit musique classique dit partition. Nous l'avons bien vu les semaines précédentes. Je me disais en préparant l'émission, ça ne doit pas beaucoup servir le travail que fait Jean Saint-Aroman avec les éditions Fuseau.
Ça ne le contredit pas.
Ça ne le contredit pas.
Parce que notre but, c'est de mettre à la disposition des interprètes les sources et puis les partitions d'origine nettoyées. Parce que les partitions d'origine, on trouve, elles ont souvent 2 siècles, 3 siècles, on trouve des taches dessus, on trouve des rayures, on trouve des parties qui sont un peu effacées, etc. On essaye de les rendre à l'interprète telles qu'elles étaient lorsqu'elles sont sorties de l'impression de l'époque ou des mains du compositeur quand il s'agit d'un manuscrit. Et on essaye de remettre à l'interprète les sources. Par exemple, si vous prenez le quatuor avec hautbois de Mozart ou le quintet pour vent et piano de Mozart, il existe des différences entre toutes les éditions modernes et le manuscrit de Mozart. On remet donc le ou les manuscrits de Mozart en facsimilé et avec... on remet la partition originale qui a été publiée par Johann André en Allemagne peu de temps après la mort de Mozart. Ça a beau être fait d'après le manuscrit de Mozart et être édité peu de temps après la mort de Mozart, il se permet déjà de changer des phrasés, de changer des choses. Dans certaines éditions modernes, pourtant très connues, il y a entre le quatuor avec hautbois de Mozart, le manuscrit de Mozart et l'édition dite Urtex, il y a 14 différences. Parce que Mozart était quelqu'un de nerveux, qui écrivait très rapidement, et souvent, le même thème apparaît 2 fois ou 3 fois avec des phrasés différents. Même quelquefois, les instruments qui sont joués à la tierce n'ont pas le même phrasé. Donc, on doit donner à l'interprète ce qu'a écrit Mozart, et c'est la même chose pour Les Nations de Couperin, ou pour Nicolas de Grigny ou d'autres. On doit donner à l'interprète ce qu'a écrit le compositeur, et c'est à l'interprète de choisir lui-même ce qu'il désire faire. Ça n'est pas le travail de l'éditeur. L'éditeur, à la rigueur, peut remettre une partition moderne, une partition, et s'il y a plusieurs versions, il peut mettre en note à la fin les différences pour servir l'interprète. Donc, pour nous, c'est un but essentiel, remettre à l'interprète les sources.
Alors, je précise à nos auditeurs, Jean Saint-Aroman, que vous êtes musicologue. Vous enseignez, comme Marie-Joseph Jude, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et au CFEDEM d'Île-de-France. Et vous êtes donc superviseur éditorial aux éditions Fuseau. Les éditions Fuseau participent au Salon Musicora depuis, je crois, le début ou presque. Et je faisais le parallèle avec Marie-Joseph Jude pour jejoueducpiano.com parce que finalement, vous êtes l'un des rares survivants dans ce type d'édition. Je crois qu'il existe un éditeur aux États-Unis et puis vous-même en France, vous vous disiez en préparant l'émission que vous avez été durement touché par les nouveaux outils, notamment les outils numériques. Donc il y a vraiment une réalité au niveau de la circulation des partitions qui sont libres et puis ce que vous faites vous.
Oui, on a senti 2 choses très différentes mais qui tous les deux ont un effet, mais le plus grand effet c'est la crise économique. La crise économique a été déclarée, le mois suivant, le chiffre d'affaires de tous les éditeurs de musique français avait chuté. Il ne faut pas croire, mais il reste 4 éditeurs français en musique, c'est tout. La crise a joué, et puis la concurrence d'Internet est tout à fait provisoire, parce qu'il est évident qu'il y a des sites qui mettent à disposition des interprètes des éditions originales. Je prends Lully, par exemple, on peut avoir tout Lully. Ce sont des partitions non nettoyées, qui ne sont absolument pas, souvent, presque illisibles, et puis, elles sont gratuites provisoirement, parce que de plus en plus, les sites sont payants. Et je pense que le jour où on aura démoli un certain nombre d'éditeurs de facsimilés comme ça, on retrouvera les mêmes partitions sur le net, mais pas correctes, en payant. On n'aura rien gagné du tout. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est un avenir définitif. Nous, ce qu'on a essayé surtout, c'est de défendre la musique française.
Et ce qui vous sauve aussi, c'est l'attention que vous portez à éditer les œuvres telles qu'elles ont été scrupuleusement écrites, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous allons écouter une œuvre pour orgue de Nicolas de Grigny, que vous m'avez conseillé, Jean Saint-Aroman, organiste de l'église cathédrale de Reims à la fin du XVIIe siècle. Voici « Veni Creator ». Veni Creator de Nicolas de Grigny, interprété par Michel Chapuis sur l'orgue de la basilique Saint-Christophe de Belfort. Jean Saint-Aroman, le principe des éditions Fuseau, c'est de donner le maximum d'éléments à l'interprète de façon la plus directe possible, le manuscrit original, toutes les sources autour, les esquisses, les transcriptions, les corrections. Vous mettez à la disposition de l'interprète tout un appareil critique subjectif et c'est lui qui fait son choix après, il fait ses courses.
Oui.
Vous dites que vous êtes obligé de faire des choix par rapport à des œuvres qui se vendent plus facilement que d'autres. Qu'est-ce qui marche en ce moment ?
Alors, l'auteur qui se vend le mieux, c'est François Couperin. C'est pas étonnant. La qualité des concerts royaux, des Goûts réunis, des Leçons de ténèbres, c'est vraiment extraordinaire. Rameau, et puis Marin Marais. Parce que Marin Marais n'existe ni en édition moderne, ce que j'approuve tout à fait, ni en édition... chez des concurrents, on est tout seul à éditer les 5 livres de viol de gambe de Marin Marais.
Et grâce à vous, en tout cas, moi, j'ai découvert les sonates pour violoncelle de Vivaldi grâce aux éditions Fuseau, bien sûr. On va écouter un mouvement de sonate pour violoncelle et basse continue, celle en la mineur.
Thank you.
Bruno Coxet et les basses réunies interprétaient le troisième mouvement de la sonate pour violoncelle et basse continue de Vivaldi, probablement grâce au travail des éditions Fuseau. Et je précise que les dernières parutions chez Fuseau, sorties en janvier, sont consacrées à Jean Ferry Rebel avec les caractères de la danse et la terpsichore. Quant aux prochaines, il s'agira des sérénades pour deux violons seuls de Viotti, de deux œuvres pour clavier de Michel Corrette et du quatrième livre de sonates pour violoncelle de Barrière pour Musicora. Nous allons rester sur le violoncelle pour notre déambulation anticipée dans Musicora. Le salon se tiendra la semaine prochaine au Palais Brongniart à Paris du 11 au 13 mai. Je le rappelle, il y a un concert à peu près toutes les heures avec des cartes blanches, des avant-goûts de festival et de futures saisons musicales, mais aussi des tribunes pour les amateurs et les jeunes lauréats de concours. Edgar Moreau, vous avez remporté un certain nombre de prix depuis vos 17 ans. Vous commencez à vous déployer sur les scènes du monde musical. Vous connaissiez Musicora avant d'y participer en tant qu'acteur, j'imagine?
Oui, bien sûr, je connaissais Musicora de nom. J'y avais été quand j'étais plus jeune pour différentes choses, notamment dans les stands de lutherie, essayer des violoncelles, regarder, écouter des concerts, effectivement. Et donc, c'est vrai que c'est une grande joie pour ma part de participer en tant qu'acteur cette année et de faire un concert.
Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer indépendamment de l'occasion scénique? Qu'est-ce que vous espérez, je sais pas, vous faire repérer par des producteurs ou des labels? Ça apporte ça, Musicora?
Moi, j'y vais pas forcément dans un premier but pour ça. C'est aussi pour jouer aussi devant un autre type de public. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait un public peut-être différent d'autres scènes. C'est peut-être un public plus large, pas forcément des gens qui connaissent extrêmement bien la musique, etc. Donc, puis c'est aussi le plaisir de jouer. Alors après, s'il y a des programmateurs de concerts, des gens qui viendront m'écouter, j'en serais ravi. Mais...
C'est mieux. Marianne Gossias, c'est un tremplin?
Oui, enfin nous on l'a conçu comme ça, c'est-à-dire que Edgar a déjà une carrière déjà assez engagée. D'autres jeunes artistes qui sont invités, pour la plupart, c'est leur premier ou deuxième concert. On essaye de les accueillir dans des véritables conditions. Évidemment, le fait qu'il y ait une concentration importante de professionnels, permettrait de mieux les connaître. Je pense notamment à beaucoup de producteurs qui sont soit étrangers, soit en province, qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir entendu Edgar, par exemple, en direct, quelque part. Ça sera l'occasion pour eux de le vivre.
Marie-Joseph Jude, vous êtes d'accord?
Moi, j'ai joué beaucoup à Musicora il y a, je sais pas, 20 ans. C'est vrai qu'on fait beaucoup de rencontres et effectivement, il y a un noyau de professionnels qui fait que nécessairement, quand vous y participez plusieurs années de suite, on finit par forcément se faire un petit peu connaître. Donc ça peut aussi servir à ça, bien sûr.
Edgar Moreau, vous allez nous interpréter la vocalise de Rachmaninov pour nous et nos auditeurs en avant-première. Une œuvre que vous jouerez à Musicora le 13 mai avec Pierre-Yves Audic, votre partenaire au piano. Pierre-Yves Audic qui a suivi vos préceptes, Marie-Joseph Jude, je crois qu'il les suit toujours.
C'est Pierre-Yves qui est en Master 1. Au c'est CNSM.
Ça. Tous les deux, vous avez remporté un prix au concours international Tchaïkovski à Moscou. On vous écoute donc la vocaliste de Rachmaninov. Thank you. Merci Edgar Moreau et Pierre Rivaudic pour cette version transcrite de la vocalise de Rachmaninov. Vous serez donc en concert dans le cadre de Musicora. La musique se fait évidemment avec un instrument, même quand il s'agit de la voix. Le salon Musicora proposera d'ailleurs des ateliers de pratique instrumentale, même pour ceux qui n'en ont jamais fait. Au tout début de Musicora, le salon était centré sur la lutherie et côté instrument, cette branche s'est considérablement élargie. Marianne Gossia, si je me trompe, vous me le dites. Instrument avant, accordéon, percussion, harpe et clavier. Vincent Rivial va nous parler de son expérience chez Roland. Vous faites la promotion auprès du grand public de cette maison et vous êtes également coordinateur du département éducation, je le rappelle. Roland est maintenant leader mondial dans la création et la fabrication d'instruments de musique numérique, très important pour les musiques dites populaires, mais vous avez également un pôle classique relativement conséquent. Qu'est-ce que les visiteurs de Musicora vont découvrir sur le stand Roland ?
Déjà, ils vont découvrir des instruments classiques, là où on n'attend pas forcément Roland, parce que le grand public connaît Roland pour ses batteries numériques, pour ses pianos numériques. Et en fait, on n'est pas encore assez connu et bien connu pour tout ce qu'on appelle la série classique, qui concerne notamment des orgues. On a même un orgue positif et un clavecin numérique. Et on montrera aux gens...
On fera des démonstrations.
On fera des démonstrations. Et d'ailleurs, nous attendons, je ne peux pas citer les noms parce qu'ils n'ont pas confirmé, mais on attend des grands noms des orgues en France, des titulaires des cathédrales de différentes villes qui vont venir jouer sur nos orgues.
Alors, je précise que la question n'est pas de savoir si le numérique est aussi bien que l'acoustique. C'est juste que ça facilite la vie, ça évite de rentrer des tuyaux dans un appartement parce que les tuyaux d'orgue, ça ne rentre pas dans les appartements.
La thématique des instruments numériques et instruments acoustiques, c'est vieux comme le monde. Encore une fois, on est très clair là-dessus, que ce soit les pianos, les accordéons, les batteries, enfin tout ce qu'on fait en numérique, y compris notre clavecin et les orgues, il ne s'agit pas en aucun cas de remplacer des instruments acoustiques. C'est d'abord un côté pratique, le fait de pouvoir tout simplement jouer au casque, jouer quand on veut, maîtriser le volume. Voilà, donc c'est un outil pratique, mais ça ne remplacera bien sûr jamais les vrais instruments acoustiques, c'est clair.
Jean Saint-Aroman, vous vous trouvez mal ou vous réjouissez? Je peux voir.
Non, je connais très peu les instruments numériques. On parlait des orgues, ce qu'il y a de certain, c'est que s'il y a un instrument pour lequel la musique a été écrite, c'est bien l'orgue, c'est-à-dire que Bach écrit pour des Schnitger, pour des instruments comme Andersen, etc., des instruments de son époque en Allemagne. Il n'écrit pas du tout comme les compositeurs français, comme Couperin ou Nicolas de Grigny, qui écrivent pour un orgue tout à fait différent.
Vincent
Je peux simplement apporter une précision, puisque vous parlez de Bach. Il se trouve que d'usine, un de nos modèles, le C330 et même le C380, il est configuré d'usine comme l'orgue de Bach à Arnstadt.
Oui, c'est ça. C'est que, en fait, vous partez pour faire du numérique, vous partez des orgues qu'utilisait Jean-Sébastien Bach.
En fait, en mémoire, dans nos orgues, dans nos instruments, il y a plein d'échantillonnages de sons enregistrés à partir de plusieurs cathédrales différentes. Et on peut complètement paramétrer de manière très simple, sans ordinateur, ces orgues pour les faire sonner et jouer le répertoire que l'on veut. Et par défaut, quand vous allumez pour la première fois un C330, vous avez l'orgue de Bach à Arnstadt.
Et votre philosophie, c'est « la vie est plus belle en musique ». Pour le salon à Musicora, vous présenterez entre autres le clavecin C30. Nous allons entendre une œuvre de Couperin que vous aimez particulièrement, Vincent Rivial, pour clavecin et un autre instrument que je vous laisse deviner. Voici les barricades mystérieuses. Les barricades mystérieuses de Couperin, transcrites pour clavecin et cymbalum, interprétées à l'instant par Corey Jameson et Ludovit Kovac. Nous avons vu un certain nombre d'activités relatives à la musique aujourd'hui dans C'est du classique, mais c'est pas grave. Et grâce à Musicora, puisque ces activités seront présentes dans le salon, la médecine sera également présente grâce au docteur Arcier qui est avec nous et son association Médecine des Arts. Vous participez au salon depuis quasiment ses débuts également. Le principe de médecine médecine des arts consiste à faire interagir différents pôles de la médecine avec des artistes pour prévenir, guérir, chercher et surtout informer sur cette partie intime du musicien. Un musicien qui connaîtra probablement des problèmes au cours de sa vie. Il est comme un sportif. Le pianiste Léon Fletcher, qui est bien placé pour en parler, dit « Notre époque a développé une médecine de pointe pour le sportif, mais a ignoré les musiciens et nous trimballons une sorte de honte à avouer nos souffrances physiques comme si nous n'avions pas de corps. » Vous insistez sur la notion de douleur chez le musicien, docteur Arsène.
Oui, la douleur, c'est vraiment le premier signe, le signe d'alerte. Beaucoup de musiciens connaissent et parfois négligent. 70% des musiciens, à peu près, auront un jour un problème de santé en relation avec leur pratique. Donc c'est quand même très important. Et l'information est certainement la première chose. Et les enseignants ont le premier rôle, finalement, parce qu'ils sont au plus près de l'élève. Nous, on a un rôle à distance, et on essaie de faire un travail pluridisciplinaire avec les enseignants. Finalement, le musicien, paradoxalement, est souvent pas traité comme les autres. Il est traité souvent plus mal que les autres. Par exemple, si on parle de maladies professionnelles, elles sont rarement déclarées, rarement prises en compte. Et souvent, les experts qu'ils vont rencontrer, par exemple, ne connaissent pas les pathologies des artistes. Donc, quand ils vont donner un pourcentage d'handicap, par exemple, ils vont le donner très faible. Si c'est un petit doigt, par exemple, un petit doigt, mais, entre guillemets, ça ne vaut pas cher.
Sauf qu'on ne peut pas jouer de contrebasse ou de violoncelle avec 100.
À 100%, on peut être...
Edgar Moreau, vous avez déjà essayé ?
De jouer sans le petit doigt ?
Oui.
J'essaierai, rentrer c'est à la compliqué. Maison tout à l'heure.
Tout est un risque pour un musicien. Il n'y a pas de petit bobo. La moindre entaille peut finalement parasiter le jeu du musicien.
Oui. Péraïa raconte ça très bien, parce que malheureusement, sur un accident tout à fait banal, c'était en manipulant des feuilles de papier, il s'est fait une plaie au pouce. Et malheureusement, ça s'est infecté, comme ça peut arriver finalement si on ne s'en occupe pas. Et il a arrêté de jouer quand même pendant près de 2 ans, ce qui est quand même très important.
J'ai trouvé que le premier accident Ramadine. Mortel du travail concerne un instrumentiste avant qui est mort d'une hémorragie à force de souffler dans son instrument.
Oui, c'est dans Ramazzini.
C'est ça.
Ramazzini, c'est un
des
médecin.
Pionniers,
oui, tout à fait, qui est né dans la même ville que Pavarotti. À Modène, en Italie, et qui est le premier à avoir parlé de la santé au travail, en général, en traitant des musiciens et en partant du principe qu'il n'y avait aucune chose, même les plus belles, finalement, qui ne pouvaient pas entraîner des pathologies. Il parlait, effectivement, des chanteurs, des musiciens. Et je pense que c'est peut-être la personne, effectivement, qui est le premier à parler de santé des artistes.
Il y a une grande diversité de mots, selon oui. l'instrument, selon les musiciens.
Bon, c'est Antonin Artaud qui aimait dire que l'artiste est un athlète affectif. Bon, moi, je n'aime pas trop la comparaison, d'ailleurs, avec le milieu sportif. Et je pense qu'il faut soigner, traiter et comprendre les artistes en tant que tel, finalement.
En tout cas, il y a une récurrence du geste qui peut faire penser à un sportif. C'est-à-dire que pour le sportif, c'est évident. Celui qui répète sans arrêt le même geste, on oublie que nous, on fait exactement le même geste, des fois de façon asymétrique, pour le saxophoniste qui joue avec l'instrument de côté, ou pour, je ne sais pas, le violoniste qui devient sourd de l'oreille gauche parce qu'il a l'instrument. On oublie ce genre de détails.
Fletcher aimait à dire que c'était des athlètes des petits muscles. Finalement, souvent, un sportif va avoir finalement tout un entraînement, un échauffement, une prise en compte du corps et souvent aussi de la performance mentale parce qu'elle est nécessaire. Moi, il me semble que le métier d'artiste, il doit être banalisé, justement. Moi, je viens du Sud-Ouest, on est des gens simples. Moi, il me semble que la musique, elle doit se vivre, quoi, en fait. C'est Sartre, je crois, qui disait, je paraphrase, mais la musique, c'est comme les bananes, ça doit se consommer sur place. Il faut qu'elle vive partout. Enfin, il faut que l'artiste, il soit comme tout le monde. Et quand il sera comme tout le monde, on pourra le soigner comme tout le monde. Et il pourra parler de ses problèmes comme tout le monde.
Si vous souhaitez en tout cas en savoir un peu plus, chers auditeurs, sur la dystonie de fonction du musicien, je vous invite à lire l'ouvrage du docteur Jaume Liobé-Rossé. Et dans les dernières parutions pour les guitaristes, il y a le livre de Marc Papillon, La main du guitariste. Et pour les chanteurs, celui de Marie Hutois qui s'intitule Anatomie à l'usage du chanteur. Le tout aux éditions Médecine des Arts. Docteur Arsier, nous allons écouter un extrait de Boccherini. Racontez-nous un petit peu. Alors, il n'est pas très connu, mais par contre, là, quand vous m'avez raconté l'anecdote, j'étais catastrophée. Ça va effrayer nos auditeurs.
Les médecins, ce sont des gens curieux. Et donc, on a analysé le squelette de Boccherini. Et il jouait donc du violoncelle, qui était le violoncelle baroque, qui était plus petit que celui qui existe aujourd'hui, il n'y avait pas de pique. Et donc, il tenait fortement son violoncelle entre ses genoux. Et donc, la première marqueur, finalement, que c'était un musicien, c'est qu'il avait ses tibias en barre, c'est-à-dire arqués. Donc, pour tenir, il avait tenu longtemps, depuis tout petit. Donc, c'était un des premiers signes. Ce qu'il avait aussi, finalement, c'est des signes de tendinite et d'insertion tendineuse très importante du côté gauche. Et ce n'était pas un gaucher. Donc, ça démontre l'action, la répétitivité du geste et aussi la toxicité du geste, quelque part, puisqu'il avait des marqueurs, des marques de tendinite. Donc, on trouve les stigmates, et on trouve les stigmates, de toute façon, chez beaucoup de musiciens qui ont beaucoup joué.
Boccherini, un exemple absolument effrayant d'un artiste marqué par sa pratique instrumentale. Il n'est pas très connu par son nom, mais il l'est par l'une de ses musiques. On écoute le menuet de son quintet à cordes en mi majeur, interprété tout de suite par l'ensemble Europa Galante sous la direction de Fabio Biondi. Éviter de finir comme Boccherini dont nous entendions sa musique. Vous le saurez en venant à Musicora pour cette table ronde consacrée à la tendinite effectuée par le docteur Arcier et tous les intervenants qui font partie de Médecine des Arts. Et si vous n'êtes pas parisien, je précise que le site Medici TV retransmettra une partie des concerts et des débats de ce salon Musicora. Docteur Arcier, le site internet de Médecine des Arts a dépassé le million de visiteurs en 2 ans. La revue fête ses 20 ans cette année. Ça veut dire que ça marche bien, on commence à avoir conscience de ces problèmes et puis il y a des solutions aussi. N'effrayez pas tout le monde.
Oui, effectivement, la plupart des troubles se traitent, se soignent. Et aujourd'hui, grâce justement à la formation qu'on a pu faire, puisqu'on forme des médecins, des kinés, on a un réseau et ce réseau est de plus en plus efficace. Et non, les choses ont évolué de façon très normale.
On sort enrichi en tout cas des expériences difficiles et le plaisir est un antidote à bien des maux, c'est ce que vous dites, docteur Arcier. Je vous propose de terminer l'émission en musique. Marie-Joseph Jude, vous allez nous interpréter l'intermezzo en la majeure de Brahms. On vous écoute en studio.
Thank you.
Merci Marie-Joseph Jude pour cet extrait de Brahms en studio. Des concerts, des classes de maîtres, des conférences, des exposants et même une fête du disque. Beaucoup d'expériences émotionnelles sont programmées pour la prochaine édition de Musicora. Vous attendez du monde, Marianne Gossia, et on espère que ce sera le cas. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Musicora, ce sera du 11 au 13 mai prochain au Palais Brongniart à Paris, avec entre autres Marie-Joseph Jude, Edgar Moreau, Pierre-Yves Audic, les éditions Fuseau, l'association Médecine des Arts et la Maison Roland. Pour tout savoir sur ce salon, nos invités, la programmation musicale d'aujourd'hui, vous connaissez le chemin, chers auditeurs, c'est du classique mais c'est pas grave sur franceinter.fr.
À force de poser des questions aux candidats, vous devez savoir tout un tas de choses, non?
Ah oui, 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 bien sûr, oui.
Vous me permettez, j'ai préparé quelques questions de mon cru.
Maintenant...
Eh bien, nous allons poser la première question à notre candidat numéro 1.
C'est vous qui jouez.
La semaine dernière, le deuxième mouvement de la symphonie dite pathétique de Tchaïkovski que vous avez entendu était à 5-4. Chaque mesure comportait donc 5 temps. Il fallait répondre au jeu 5 temps. Pour tout de suite, vous allez entendre un autre mouvement de symphonie écrite par un compositeur qui a lui-même interrompu sa carrière pianistique en s'automutilant. Il s'était bloqué le troisième doigt en espérant augmenter son agilité et ça a donné le contraire. Donnez-moi le nom de ce compositeur pianiste malchanceux. On ne souffle pas, Dr Arsi. Vous pouvez laisser votre réponse sur le site de C'est du classique, mais c'est pas grave, ou sur le répondeur au 01 56 40 16 40. Vous le savez, les premiers gagneront des places pour les concerts des orchestres de Radio France ou des CD Radio France et Harmonia Mundi. C'est parti!
Thank you.
Cette émission se termine, vous pouvez la réécouter ou la podcaster, il vous suffit d'aller sur le site de C'est du classique, mais c'est pas grave, sur franceinter.fr. Vos commentaires seront les bienvenus. Vous pourrez également voter à propos de l'émission d'aujourd'hui pour patienter jusqu'à la semaine prochaine. Samedi prochain, justement, nous ferons le portrait d'un génie, le génie peut-être parmi les autres, Mozart. Le claveciniste et chef d'orchestre Ton Koopman sera mon invité. Il nous dira tout sur l'artiste et surtout ce qu'il aime. Merci à toute l'équipe technique d'aujourd'hui, Jean-Richard Dufour, Olivier Pasquier et Isaline Marker, Xavier Pestuggia et Valentine Chédebois. Restez avec nous, Emmanuel Kérad et ses invités vous attendent dans un instant, c'est dans la librairie francophone. Bon week-end à l'écoute de France Inter.